Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bien, bonsoir. Nous abordons avec ces deux heures de cours la fin de cette série sur l'apéline, qui est un peptide à effet pléiotropique, comme vous le savez maintenant. Et donc, après avoir vu l'histoire, car c'est vraiment une histoire récente de la découverte du récepteur orphelin de l'apéline en 1993, après avoir vu la découverte du ligand à l'apéline elle-même, nous avons étudié l'expression dans différents tissus de l'apéline. Nous avons vu son rôle dans le développement et que si l'apéline joue un rôle indiscutable dans le développement cardiaque et aussi vasculaire dans des espèces telles que le poisson zèbre et la grenouille, eh bien, vraisemblablement, en tout cas, chez les mammifères, il n'en est pas de même. Néanmoins, l'apéline a un rôle important dans la fonction cardiovasculaire chez l'adulte, que nous avons vu la dernière fois. Et au cours maintenant de ces deux heures, je souhaiterais aborder avec vous, d'une part, les actions au niveau du système nerveux central, d'autre part, les actions métaboliques et, dans la mesure du possible, essayer d'avoir une vue d'ensemble après, je dirais, à peu près une dizaine d'années donc, de travaux publiés sur l'apéline. Il y a encore énormément de travail à faire. Je pense que c'est un peptide passionnant. Et ceci explique que finalement, comme je l'avais dit la fois précédente, j'avais préféré me concentrer sur l'apéline en 6 heures plutôt que de faire apéline, adrénoméduline et urotensine. Je réserve ça pour des cours ultérieurs. Alors, apéline et pathologie cardiovasculaire, simplement pour vous résumer en deux diapositives le cours de la fois précédente, nous avons vu que l'apéline a un effet inotrope positif, qu'au cours de l'insuffisance cardiaque expérimentale et chez l'homme, l'apéline s'élève durant les premiers stades de l'insuffisance cardiaque, elle s'élève dans le plasma et on pense que cette apéline plasmatique dans cette circonstance pathologique pourrait être d'origine auriculaire, provenant des oreillettes. Mais à un stade plus tardif, l'apéline s'abaisse et au cours de l'insuffisance cardiaque décompensée, l'apéline redescend clairement à des niveaux quasiment ceux des valeurs normales. Et d'autre part, nous avons vu une étude intéressante des variations des taux d'apéline au cours de la correction aiguë de l'insuffisance cardiaque terminale par assistance circulatoire ventriculaire gauche. Et non seulement l'apéline au cours de l'insuffisance cardiaque est élevée dans le plasma, en tout cas au début, mais les différents gènes apéline et son récepteur sont aussi élevés dans le myocarde des patients atteints d'insuffisance cardiaque. Encore est-il qu'il ne s'agit que d'une étude isolée, c'est celle que vous avez rapportée sur l'assistance circulatoire chez les gens qui vont avoir une transplantation cardiaque, et donc ceci mériterait d'être étudié de façon plus approfondie. Et puis, nous avions terminé en disant qu'il y avait une certaine difficulté, bien sûr, à interpréter les résultats, en tout cas, de la apéline circulante, étant donné l'hétérogénéité des patients, j'avais insisté là-dessus. Il est important aussi de réaliser que le dosage de l'apéline plasmatique est difficile et que de toute façon, l'apéline plasmatique ne reflète qu'une partie de ce qui se passe très certainement au niveau myocardique, étant donné qu'il y a à la fois vraisemblablement un rôle de l'apéline circulante, elle est indiscutablement une hormone, mais aussi l'apéline synthétisée et agissant localement par action autocrine ou paracrine peut être encore plus importante que l'apéline circulante. Et enfin, d'autres facteurs que nous allons d'ailleurs étudier maintenant peuvent être impliqués dans les variations des taux plasmatiques d'apéline, et notamment l'influence des traitements, comme les inhibiteurs du système rhénanie-angiotensine et l'osmolalité plasmatique. Et pour cela, pour terminer cela, je voudrais rappeler que j'avais insisté sur l'intérêt thérapeutique de l'apéline en pathologie cardiovasculaire chez l'homme, puisque l'on peut penser que l'apéline ou les agonistes de l'apéline permettraient d'accroître la contractilité cardiaque avec en même temps un effet bénéfique sur la pré- et la post-charge que la pénine abaisse. Et d'autre part, ces effets sont conservés au cours de l'insuffisance cardiaque, en tout cas de l'insuffisance cardiaque expérimentale. Il n'y a aucune étude faite chez l'homme. Et qu'aussi chez l'animal, on a pu, de façon indirecte en tout cas, montrer que cet effet bénéfique de la pénine s'observe en l'absence de toute hypertrophie cardiaque. Il y a en outre un effet bénéfique toujours dans l'insuffisance cardiaque de la pénine ou d'un agoniste qui serait à développer, à savoir un effet antivasopressine que je vais détailler dans un instant. Et donc, on peut imaginer qu'il y aurait tout intérêt à développer une recherche sur la restauration ou la stimulation du système à pénine au cours d'une insuffisance cardiaque. Une théorie veut en effet qu'au fond, l'insuffisance cardiaque pourrait être aggravée, je dirais, se développer, entre autres parce que progressivement, la pénine s'abaisse au fur et à mesure de la maladie, et donc on aurait tout intérêt à restaurer des taux suffisants d'apénine pour pouvoir restaurer une fonction contractile cardiaque correcte. Alors, l'apénine se rapproche des inotropes positifs dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, qui n'ont pas, comme je l'avais dit, une très bonne réputation, puisque les agonistes bêta-adrénergiques, les inhibiteurs de la phosphodiesterase, ont des effets secondaires qui ont malheureusement fait qu'ils ne peuvent pas être prescrits dans la science cardiaque chez l'homme actuellement. On peut penser que la péline pourrait avoir un effet similaire à d'autres produits qui sensibilisent les cardiomyocytes au calcium intracellulaire sans faire pénétrer pour autant le calcium intracellulaire dans le myocarde, mais qui sensibilisent ce myocarde ces cardiomyocytes au calcium intracellulaire. Étude à rapprocher de celle qui a été réalisée par un inotrope avec un inotrope positif comme le lévosimidan, mais qui malheureusement était négatif. Et donc, il est important, je crois, d'étudier à l'heure actuelle les effets régionaux et globaux sur le plan vasculaire et cardiaque de la péline chez l'homme. Alors, quelles sont les autres actions biologiques que nous allons étudier? Eh bien, tout d'abord, nous allons étudier les actions centrales de la péline. Pour cela, nous avons un bon nombre d'études qui ont été réalisées. Une grande partie de ces études ont été réalisées ici, au Collège de France. D'abord dans l'INSERM U36, puis dans l'unité INSERM dirigée par Catherine Lorenz, de toute façon sous la direction de Catherine Lorenz-Cortez. Et d'autre part, nous allons, au cours de la deuxième heure de ce cours, discuter du rôle de l'apéline sur le métabolisme énergétique et de la possibilité que l'apéline pourrait être ce qu'on appelle une adipokine. Quand on étudie la distribution des ARN messagers de l'apéline et de son récepteur dans différents organes, chez l'animal, souris, rat et chez l'homme, eh bien on observe que l'apéline est distribuée de façon relativement ubiquitaire, mais de façon très claire, chez l'animal comme chez l'homme, on retrouve l'apéline dans différentes aires cérébrales que nous allons étudier dans le détail, mais dès les années 2003, on voyait déjà l'expression de l'apéline dans l'amygdale, le cérébellum, dans l'hippocampe, l'hypothalamus, la substance noire, etc. Pratiquement à taux équivalent. Je rappelle que l'apéline et son récepteur se trouvent exprimés de façon importante dans la moelle épinière et que pour l'instant, il n'y a aucune action qui soit en rapport avec cette distribution élevée. Le point intéressant, c'est que non seulement donc l'apéline se trouve exprimée dans ces différentes aires cérébrales, mais le récepteur de l'apéline se trouve lui aussi à des niveaux relativement importants dans ces différentes aires. Et donc, ceci pouvait faire suggérer une action ou des actions de l'apéline au niveau du système nerveux central. Voici résumer ces actions en quelques mots. Et nous allons les détailler pour certaines d'entre elles. Tout d'abord, et c'est peut-être là ce que je voudrais vous montrer de la façon la plus éclatante possible et pertinente, c'est que l'apéline a un rôle sur la sécrétion de vasopressine. Elle régule de façon négative la production et la sécrétion de vasopressine. D'autre part, et là il s'agit à partir de ce moment d'études relativement isolées, une étude rapporte une diminution de la production d'ACTH et du taux circulant de corticostérone chez l'animal avec, un effet net puisqu'il y a une baisse de l'ordre de 3 fois de ces taux chez le rat. Toujours par voie intracérébro-ventriculaire, l'apéline est capable d'augmenter le taux de prolactine de l'hormone luténéisante, LH, et de l'hormone qui stimule les follicules, AFSH. L'apéline diminue la prise d'eau, diminue la température corporelle, et il existe une action qui est controversée de l'apéline sur la prise de nourriture. Par voie systémique, par voie intraveineuse, l'apéline n'a pas d'effet. Mais par voie intracérébro-ventriculaire, il semble que l'apéline ait des effets variables, suivant d'abord les auteurs, et surtout suivant les protocoles expérimentaux. Ainsi, l'apéline n'aurait pas d'effet par voie intracérébro-ventriculaire chez l'animal rassasié, mais pourrait avoir un effet discret chez l'animal à jeun. Il se pourrait qu'à ce moment-là, l'apéline diminue la prise alimentaire chez l'animal à jeun pendant un temps court, à vrai dire, et à dose relativement élevée. Donc là, il y a un point d'interrogation, et ce n'est pas négligeable parce que on va voir que l'apéline, si on la considère comme une adipokine, un peu comme la leptine, en poussant un tout petit peu loin la comparaison, eh bien, c'est un élément important du puzzle qui nous manque. D'autre part, l'apéline, par voie intracérébro-ventriculaire, n'a pas d'action, en tout cas dans les études qui ont été faites ici au Collège de France, sur la pression artérielle et la fréquence cardiaque, alors même que vous vous rappelez que par voie intraveineuse, l'apéline a un discret effet hypotenseur qui est médié par la production de monoxyde d'azote. Quand on regarde en détail les différentes aires cérébrales où se trouve d'une part l'apéline et d'autre part son récepteur, eh bien, on observe une distribution relativement large. Si on regarde plus particulièrement la distribution des corps cellulaires et des fibres nerveuses pour l'apéline dans le cerveau de rat, on voit que les corps cellulaires d'apéline sont particulièrement bien marqués par immunoréactivité dans la région hypothalamique, dans la medulla oblongata. Alors, le point intéressant, c'est que cette région hypothalamique, c'est celle qui va contrôler en grande partie la production de vasopressine, d'ocytocine. Et on trouve dans les noyaux qui sont les noyaux paraventriculaires et supraoptiques, par exemple, on trouve à la fois, bien sûr, la vasopressine et de l'ocytocine, et dans les mêmes noyaux, on trouve de l'apéline, des corps cellulaires donc qui synthétisent de l'apéline. Et ceci est essentiel puisque le contrôle neuro-endocrinien, en quelque sorte, au niveau de fonctions aussi essentielles que la soif, la régulation de la pression artérielle et l'osmolalité et la lactation, vont être a priori des régions où l'apéline va pouvoir avoir un certain effet de modulation. En tout cas, c'est ce qu'on peut inférer de cette colocalisation dans les noyaux. D'autre part, les fibres nerveuses immunoréactives pour l'apéline se trouvent là aussi de façon encore plus largement distribuée au niveau de l'éminence médiane, de l'hypophyse postérieure, qui est celle qui stocke, comme vous le savez, notamment la vasopressine, et puis au niveau d'organes qui se trouvent aux alentours des ventricules cérébraux et où se trouvent entre autres les récepteurs de l'osmolalité, comme par exemple l'organe subfornical, l'area postrema, où là vous avez une barrière capillaire relativement lâche et où il peut y avoir une influence de la concentration ionique et de l'osmolalité pour mettre en jeu des fibres nerveuses qui vont se projeter au niveau de ces noyaux paraventriculaires et supraoptiques. Donc, voici la projection de l'apelline. Et pour ce qui est du récepteur de l'apelline, on le retrouve, pour être simple, dans les noyaux supraoptiques et paraventriculaires, dans l'hypophyse antérieure et intermédiaire. On en trouve aussi beaucoup dans la glande pinéale, ce qui fait penser que l'apelline pourrait éventuellement jouer un rôle dans le rythme circadien, puisque vous savez que cette glande est impliquée dans ce contrôle. Alors, dans le travail qui a été réalisé au Collège de France par Nadia de Motta dans le groupe donc, de Catherine Lorenz-Cortez, il a été montré que, vous voyez, que l'hypophyse, la glande pinéale, effectivement, contient des quantités très importantes d'apelline, puisque comparé aux autres aires cérébrales, il y a à peu près 17 fois plus d'apelline en termes de molécules immunoréactives par rapport à ces autres aires cérébrales. Donc voilà une concentration importante. Dans le plasma, on trouve des concentrations aussi importantes d'apelline. Et le travail a non seulement consisté à regarder l'ensemble de ces molécules immunoréactives, mais de pouvoir aussi les séparer par chromatographie sur gel. Et on peut de cette façon voir que, par exemple, au niveau de l'hypothalamus, on trouve la forme courte, l'apelline 13, la forme pyroglutamée apelline 13, dans l'hypothalamus. Dans le plasma, on trouve non seulement de l'apelline 13, mais aussi la forme un peu plus longue, l'apelline 17. D'autres auteurs ont montré aussi, par ailleurs, en utilisant d'autres types d'anticorps, qu'il y avait de l'apelline 36. Mais en tout cas, chez le rat, donc, ce qui est à retenir, c'est la présence de ces différentes formes d'apelline et dont on a pu montrer, d'autre part, qu'il s'agissait bien non seulement de molécules qui étaient reconnues par un anticorps spécifique, mais en plus de molécules, ces fractions sont capables d'internaliser le récepteur, c'est-à-dire qu'on a un test fonctionnel permettant d'assurer qu'on a affaire à des espèces moléculaires qui sont bien bioactives. Alors, voici maintenant l'état de l'art en matière de colocalisation de l'expression de l'AVP, de l'arginine vasopressine, et de l'apelline dans un noyau qui est ici le noyau supraoptique. Les mêmes résultats peuvent s'observer dans le noyau paraventriculaire. On peut utiliser des techniques qui permettent de marquer à la fois la vasopressine par l'immunohistochimie, l'apelline par hybridation in situ, et l'on peut à ce moment-là voir l'existence de grains qui représentent l'arginine vasopressine dans, d'autre part, un noyau marqué par hybridation in situ pour le récepteur de l'apelline. Donc dans le même corps cellulaire, dans le noyau supraoptique, on peut trouver à la fois, comme l'indique ce schéma, on peut trouver à la fois l'apelline et la vasopressine. On peut trouver à la fois le récepteur de l'apelline et d'autre part l'ARN messager codant pour le précurseur de la vasopressine. L'un des points intéressants, c'est qu'il semble que l'apelline et la vasopressine sont synthétisées dans des vésicules, dans des granules différents. Et ceci est important dans l'étude de la libération de ces deux hormones, puisqu'il va y avoir ainsi une modulation différentielle, une sécrétion différentielle, lorsqu'il va y avoir mise en jeu de l'activation de ces neurones. Alors, maintenant, restez à savoir si c'est bien de montrer une colocalisation, mais s'il y avait un effet, éventuellement, de l'apelline sur l'activité des neurones vasopressinergiques. Alors, c'est le cas. Le travail a consisté à étudier l'activité d'un neurone vasopressinergique, et pour cela, il faut avoir un repérage très précis, repérer l'activité électrique du noyau supraventriculaire qui contient les neurones à vasopressine, et on enregistre l'activité électrique avec ici ces pics qui sont suivis de quelques silences électriques. Et on peut à ce moment-là, par voie intracérébro-ventriculaire, administrer de l'apéline. Dans le cas présent, c'est de l'apéline 17. Et cette apéline va entraîner une diminution de l'amplitude du signal électrique, d'une part. D'autre part, une diminution du nombre, par unité de temps, du nombre de ces pics, et une augmentation des intervalles, des silences entre les deux. Autrement dit, l'apéline va entraîner une réduction progressive et soutenue de l'activité électrique de ces noyaux, de ces neurones, des noyaux supraoptiques. Ceci a été fait d'une part en conditions basales et d'autre part après restriction hydrique. La restriction hydrique va entraîner une stimulation de la production de vasopressine et donc une activité électrique accrue. Donc on peut observer ainsi clairement, de façon pharmacologique, un effet inhibiteur de l'apéline sur ces neurones qui sécrètent de la vasopressine. Alors maintenant, c'est une étude plus globale où on va étudier maintenant l'effet global de l'administration on va regarder globalement l'effet de la déshydratation sur les taux d'apéline et de vasopressine dans le plasma et l'hypothalamus. On va donc chez les animaux soumis à une déshydratation qui va stimuler la vasopressine, étudier ce qui se passe dans le plasma et l'hypothalamus. Quand on met les animaux et l'homme en déshydratation, il va falloir retenir au maximum de l'eau et donc il y a une augmentation de la vasopressine plasmatique qui est relativement rapide et parfaitement bien mesurable dans le plasma et dans les urines aussi d'ailleurs. À l'inverse, ce que l'on observe au cours de 24 et de 48 heures de déshydratation, il y a une diminution progressive marquée du taux plasmatique de l'apéline. Si on étudie maintenant ce qui se passe au niveau hypothalamique, on a exactement l'image en miroir de ce qu'il y a dans le plasma, à savoir au cours de la déshydratation, il va y avoir une baisse au bout de 48 heures des stocks de vasopressine dans les noyaux des neurones magnocellulaires. Et à l'inverse, il va y avoir une accumulation d'apéline au bout dès la 24e heure et aussi significative à la 48e heure lors de la déshydratation. Donc vous voyez qu'il y a donc une variation inverse de ces deux hormones qui vont donc avoir un effet auto-régulateur l'une sur l'autre au cours d'un phénomène aussi important que la déshydratation. Maintenant, expérience pharmacologique, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on administre de l'apéline 17 sur la vasopressine et d'autre part sur la diurèse chez la souris au cours de la lactation? Alors pourquoi la souris au cours de la lactation? Eh bien, la lactation est un état dans lequel il existe une augmentation de la production d'ocytocine, bien sûr, mais aussi de vasopressine, car il y a nécessité pour la rate qui allait, et la femelle, d'une manière générale, de pouvoir récupérer le maximum d'eau pour conserver, au fond, une volémie correcte. Et donc, on sensibilise ainsi l'étude. Ce que l'on voit, c'est que en partant donc de taux de vasopressine élevés, l'administration d'apéline 17 entraîne dans le plasma une baisse pratiquement de moitié du taux de vasopressine, donc un effet de régulation négative claire. Et alors ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe maintenant sur le plan urinaire. On observe au même moment, dans les en même moment une augmentation de la diurèse qui est multipliée pratiquement par 3. Donc il y a un effet diurétique. Alors cet effet est un effet diurétique qui ne s'accompagne pas d'une augmentation de l'excrétion fractionnelle du sodium ou du potassium. Certes, on observe plus d'ions sodium et potassium dans les urines des souris qui ont reçu l'apéline, mais quand on étudie l'excrétion, le débit urinaire plus exactement, de sodium et de potassium, il est inchangé. Donc, en un mot, pour résumer toutes ces expériences, on peut dire que l'apéline, soit de façon physiologique, naturelle, par déshydratation, soit par voie pharmacologique, va réguler de façon négative l'activité des neurones vasopressinergiques. Cette figure vous montre que l'apéline qui est marquée ici avec un anticorps immunofluorescent en vert et ici pour la vasopressine en rouge sont bel et bien colocalisées. Vous voyez ici la colocalisation en jaune lorsque l'on superpose les deux images en microscopie confocale. Et d'autre part, ce neurone est finalement un neurone qui contient à la fois l'ARN messager pour la vasopressine, pour l'apéline, et les deux types de récepteurs, le récepteur apélinergique et le récepteur de la vasopressine V1A, V1B. Et lorsqu'il y a déshydratation, eh bien, il va y avoir production de vasopressine, mais en même temps, il va y avoir une action autocrine de l'apéline sur le même neurone qui va réguler de façon négative l'activité du neurone, qui va diminuer la production de vasopressine par une action donc directe sur ces neurones, ce qui va limiter donc l'effet antidiurétique de la vasopressine. Donc là, on est tout à fait dans un système de feedback court qui, au niveau central, est important pour avoir en quelque sorte une régulation fine, ce qu'on appelle la tuning, si on veut, de la production de vasopressine. Non seulement l'apéline a une action directe négative donc, sur la production de vasopressine, mais en plus elle va avoir une action sur la prise d'eau. Ainsi, par voie intracérébro-ventriculaire, l'apéline 13, lorsqu'elle est administrée chez un rat qui a été déshydraté pendant 24 heures, a un effet de restriction de la prise d'eau sur les 30 minutes qui suivent cette administration. Donc pour nous résumer, je dirais que l'apéline a clairement une action centrale anti-vasopressine dans une espèce comme chez le rat. Vous l'avez vu, on peut la détecter, on peut détecter les neurones apélinergiques dans les noyaux supraoptiques paraventriculaires, les noyaux arqués. Il y a une colocalisation de ce système apélinergique avec la vasopressine, mais aussi avec l'ocytocine dans les noyaux neuroendocrines magnocellulaires. Et d'autre part, comme je vous l'ai montré, il y a une baisse de la libération de vasopressine par injection intracérébro-ventriculaire de différentes formes d'apéline, 17 ou 13. Et cet effet inhibiteur est un effet inhibiteur direct de l'apéline sur ces neurones du noyau supraoptique et paraventriculaire. Et donc, on peut dire que l'apéline a un rôle dans le contrôle central chez le rat de l'homéostasie et de la volémie. Et comme souvent en cours de ces cours, j'ai essayé de vous poser la question « Et chez l'homme ?» point d'interrogation. Comme rien n'avait été fait, et comme nous avions la possibilité d'étudier ce qu'il en était chez l'homme, nous avons, avec Catherine Lorenz et Michel Azizi, décidé de faire une étude clinique chez l'homme et de vous rapporter ici les résultats qui sont sous presse dans l'American Journal of Society of Nephrology. Alors, cette étude avait pour but, d'une part, d'étudier la pénine plasmatique chez l'homme dans des conditions rigoureuses, et d'autre part, d'étudier l'effet de variation de l'osmolalité plasmatique chez l'homme sain dans une étude qu'on appelle une étude d'investigation clinique qui s'effectue de façon extrêmement rigoureuse dans un centre d'investigation clinique, en l'occurrence celui de l'hôpital dans lequel je travaillais, l'hôpital européen Georges Pompidou, et dont la charge et la responsabilité incombe à Michel Azizi. Donc on a étudié les variations plasmatiques de la pénine dans deux conditions de variation caricaturale de l'osmolalité plasmatique. La première condition, c'est de perfuser du sérum salé hypertonique. Ça, c'est une condition où l'on induit une hyperosmolalité extrêmement puissante. C'est plus rapide et plus puissant et moins ennuyeux que la déshydratation pendant 24-48 heures chez le rat, mais le but est le même, c'est d'augmenter l'osmolalité. Et d'autre part, on a soumis un certain nombre de volontaires à une charge aqueuse, c'est-à-dire qu'on les fait boire en peu de temps, une quantité d'eau non négligeable, pour au contraire les mettre en hémodilution et en hypoosmolalité. De cette façon-là, on peut étudier dans des conditions d'hyper ou d'hypoosmolalité des hormones qui, comme la vasopressine et pourquoi pas la péline, peuvent varier de façon relativement importante. Alors, une des choses qui est intéressante, c'est que nous avons pris un protocole que nous avions mis au point avec Marc Thibonnier et Joël Ménard en 1984, il y a presque un quart de siècle. Et vous allez voir que le même protocole qui nous avait amené à une milliosmole près à définir le seuil de libération de la vasopressine a été utilisé et nous avons trouvé exactement les mêmes résultats, ce qui quand même est assez rassurant. Alors comment ce protocole a-t-il été réalisé? Nous avons pris 10 sujets sains volontaires, masculins, parce que la vasopressine et la péline peuvent être influencées par le cycle menstruel, non fumeurs, puisque vous le savez, la vasopressine est stimulée par le tabagisme. Au passage, quand on fait une étude comme cela, on vérifie extrêmement attentivement que les sujets sains, effectivement, ne fument pas, on a des manières bien précises, et puis ne prennent pas non plus d'autres produits. Cycle nictéméral de la péline d'abord dans un premier temps, puis, ça je vous rapporterai pas cela, perfusion de sérum salé hypertonique, ce qui correspond à 0,85 molaire de NaCl. C'est-à-dire 850 millimolaires de NaCl. Or, 1 litre d'eau, 140 millimolaires de NaCl correspond à une rétention d'un litre d'eau, puisque l'osmolalité, le sérum physiologique isotonique est de 140 milliosmoles. Autrement dit, on a administré là une charge osmolaire importante, correspondant aussi à une rétention hydrique importante. Vous voyez, la charge aqueuse était de 20 ml par kilo en 30 minutes. On a étudié 5 sujets, d'abord avec la charge hyperosmolaire, puis 5 sujets avec la surcharge hydrique. Et on a mesuré, bien sûr, la péline, la vasopressine, mais en même temps, les différents paramètres du système rénine-angiotensine, les électrolytes, l'hématocrite et les protéines pour apprécier l'hémodilution. En 1984, nous avions fait cette étude en fait pour vérifier ou pour étudier plus précisément si chez l'homme sain normotendu par rapport à l'hypertendu, il pouvait y avoir des variations des taux de vasopressine. Et c'est la raison pour laquelle nous avions fait cette étude. En un mot d'ailleurs, je peux dire que chez l'homme hypertendu, nous n'avions pas trouvé d'argument pour des taux anormaux de vasopressine. Ça avait été une des hypothèses qui avait été proposé, et nous n'avions pas trouvé non plus de différence de seuil de libération de la vasopressine en fonction de l'osmolalité. Ce qui est indiqué ici, c'est qu'au cours de la perfusion donc, de sérum salé hypertonique, on voit une hémodilution du fait de la rétention d'eau par la mise en jeu de l'hormone antidiurétique ou vasopressine, donc une rétention d'eau et hémodilution qui est très nette puisqu'on passe de environ 66-67 grammes de protéines par litre de plasma à environ 60. On voit que la vasopressine qui est très basse, aux environs de quelques picomoles par litre, s'élève de façon très très nette au cours de la perfusion de sérum salé hypertonique. Elle est multipliée par 3, 3,5. Et ceci est parallèle à l'osmolalité qui passe de 284 environ à 306 milliosmoles. On peut, comme chaque patient est étudié de façon séquentielle au cours du temps et que l'osmolalité s'élève progressivement au cours du temps, on peut pour chaque sujet faire une étude de relation entre l'osmolalité plasmatique et le taux de vasopressine. Et on va le faire aussi entre le taux d'osmolalité plasmatique et le taux d'apéline. Pour ce qui concerne l'osmolalité et le taux de vasopressine, ce que l'on voit, c'est qu'on peut calculer à partir de quand la vasopressine s'élève. Et nous avions calculé que la vasopressine est libérée à partir d'un seuil osmolaire à 283 milliosmoles par kilo d'os plasmatique. Et que d'autre part, il y avait une excellente corrélation, n'oubliez pas que c'est une correction biologique, individu par individu, entre le taux plasmatique de vasopressine et l'osmolalité de l'ordre de 0,7 pour chacun des sujets. Alors maintenant, nous allons voir ce qu'il en est de l'étude réalisée récemment pour étudier les variations de l'apéline et de la vasopressine chez nos 5 sujets. Tout d'abord, j'insiste sur le fait que les dosages d'apéline ont été réalisés après séparation par HPLC et donc on voit que la forme circulante prédominante est l'apéline 17 et l'apéline 13 est inférieure à celle de l'apéline 17. Il existe de l'apéline 36 aussi en plus faible quantité dans les plasmas de ces patients. Et voici donc le résultat obtenu chez 5 sujets volontaires et soumis à cette perfusion de 0,85 molaire de NaCl en l'espace d'environ 2 heures. Ce que l'on voit, c'est l'osmolalité plasmatique qui s'élève rapidement. On observe l'augmentation de la vasopressine plasmatique. Vous voyez une certaine dispersion des résultats, mais elle est relativement faible. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit que de 5 sujets. Le seuil osmolaire de libération de la vasopressine plasmatique est de 283 milliosmoles. C'est exactement celui que nous avions trouvé 24 ans avant. Et puis, d'autre part, et là, maintenant, ça devient évidemment le résultat nouveau, ce que vous voyez, dans un premier temps, les taux plasmatiques d'apéline s'abaissent. Et ça baisse de façon très notable. Il passe d'environ 450 à moins de 300 photomoles par attendez, je regarde parce que je ne veux pas te dire de bêtises. Photomoles par millilitre de plasma. Bien, donc une baisse dans un premier temps. Alors, ce qui est surprenant, et ça nous a beaucoup troublés, évidemment, c'est que dans un deuxième temps, après 80 minutes de perfusion, alors qu'on s'attendait à une baisse progressive, continuelle de l'apéline, on observe une remontée, puis une remontée qui est indiscutablement significative durant le reste de la perfusion, alors même que la vasopressine continue à monter. Donc il y a un échappement en quelque sorte qui se réalise. Alors ceci est particulièrement intéressant, a fait cogiter l'équipe et Michel Azizi aussi. Premier lieu, je dirais, au fond, on peut résumer ce qui se passe en se disant que, dans un premier temps, si on regarde les taux de l'apéline plasmatique, on a cette baisse qui s'observe chez les 5 sujets. Si on extrapolait à partir de la 80e minute, on devrait continuer à abaisser les taux d'apéline jusqu'à environ 200 femtomol par millilitre. C'est pas ce qu'on observe. On observe progressivement ce delta, cette augmentation. Eh bien, si on regarde maintenant l'expansion volumique, c'est-à-dire qu'on a apporté du sel, le sel a fait retenir de l'eau par l'hormone antidiurétique, et donc on peut calculer de façon théorique, mais on pourrait le faire de façon pratique, mais c'est plus difficile, on estime qu'environ à la 80e minute, il y a une expansion du volume extracellulaire de l'ordre de 12 à 15%. C'est beaucoup, c'est réellement beaucoup. On ne peut pas faire ça chez l'insuffisance cardiaque, parce qu'une telle expansion volémique ne serait pas tolérée. Donc, maintenant, si on regarde ce qu'il en est, la différence, finalement, entre le taux d'apéline plasmatique prévu et celui observé, on voit donc qu'à partir du moment où on a cette expansion volémique, eh bien, on a une augmentation du taux de l'apéline plasmatique. Et quand on arrive à la fin de la perfusion, au bout des 2 heures, on a une augmentation du volume extracellulaire de l'ordre de 20%, du taux de volume plasmatique de l'ordre de 17%, ce qui est beaucoup. Donc il y a deux stimulus qui vont agir en opposé. Un stimulus osmolaire qui va faire produire de la vasopressine, avec une régulation négative de l'apéline. L'apéline va être mise en jeu, elle va s'abaisser et la vasopressine ainsi va être en opposition en quelque sorte. Mais à un certain moment donné, il y a une telle expansion volémique que l'on peut faire l'hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse encore à l'heure actuelle, je vous dirai quelles sont les expériences qu'il faut qu'on réalise, elles ne le sont pas parce que personne n'a jamais imaginé cela avant, eh bien on peut faire l'hypothèse qu'il y a une volo régulation, c'est-à-dire des volorécepteurs qui vont mettre en jeu cette fois-ci la production d'apéline. Finalement, il est plus important pour l'apéline à un moment donné de contrôler peut-être la volémie et peut-être d'augmenter par exemple la fonction contractile myocardique pour éliminer, je dirais, cette expansion volémique, cette augmentation du volume plasmatique, que de contrôler l'osmolalité. C'est finaliste de dire cela. Mais on peut dire qu'il y a vraisemblablement à la fois une implication d'osmorécepteurs et de barorécepteurs pour la libération d'apéline. C'est au fond ce que résume un petit peu... pardon. Si je veux terminer maintenant sur le versant de la surcharge hydrique, qui va entraîner donc une hémodilution, une hypoosmolalité, l'osmolalité de 283 va s'effondrer aux environs 280 milliosmoles par litre, avec cette prise d'eau de 20 millilitres par kilo pendant la demi-heure. Eh bien, en même temps, on voit la vasopressine s'abaisser et rester basse tout au long de l'étude. On étudie l'effet de cette charge hydrique pendant les 4 heures qui suivent. Et vous voyez... Alors, cette fois-ci, une régulation de nouveau à l'opposé de la vasopressine, une stimulation de l'apéline qui va être, cette fois-ci, rectotono, continue et constante durant les 4 heures de l'observation. Là, il n'y a pas autant d'expansion volémique et donc, il ne s'agit là que d'une mise en jeu des osmorécepteurs et non pas des volorécepteurs. Alors, si on regarde maintenant les corrélations, comme on peut s'y attendre, il existe une corrélation entre le taux plasmatique de vasopressine et l'osmolalité. Plus l'osmolalité s'élève, plus la vasopressine est stimulée, et une relation inverse aussi entre le taux plasmatique d'apéline et l'osmolalité. Plus l'osmolalité s'élève et plus l'apéline s'abaisse. Donc l'osmolalité est un stimulus majeur du taux plasmatique de l'apéline. Cette relation a été faite durant les 80 premières minutes de l'étude avec hyperosmolalité, on n'a pas tenu compte là des 40 autres minutes qui correspondent à la remontée du taux d'apéline sous l'effet de l'expansion volémique. Il existe une relation, mais qui n'est pas significative, entre l'apéline et la vasopressine, car quand on ajuste, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une régression en tenant compte du facteur osmolalité, en fait, il n'y a pas de relation significative, il faut dire qu'il n'y a que 5 sujets, elle est négative, elle n'est pas très loin de la signification, mais l'osmolalité joue un tel rôle important qu'il n'y a pas de relation individuelle, si je puis dire, entre apéline et vasopressine dans cette étude d'investigation clinique. Donc pour nous résumer, je peux dire que réellement c'est la première démonstration chez l'homme de la régulation de l'apéline par un stimulus osmolaire. Je dirais même que c'est la première étude d'investigation clinique qui a été faite pour l'apéline chez l'homme. Tout ce qui a été fait chez l'homme a été fait chez l'homme pathologique. L'obèse, on va le voir tout à l'heure, l'insuffisant cardiaque, on l'a déjà vu. Et donc, aucune étude n'avait été réalisée. Et je pense qu'on ne peut pas étudier ou prétendre étudier une hormone qu'on a la chance de pouvoir mesurer sans faire au départ ce type d'étude. Et il aurait pu être fait, je pense, dans d'autres encore circonstances qu'on peut essayer de réfléchir ensemble. La deuxième conclusion qui est importante, à mon avis, c'est la régulation plasmatique de l'apéline par la volémie. Quand on a une surcharge volémique, comme au cours de la science cardiaque, on peut avoir à ce moment-là une augmentation du taux plasmatique de l'apéline. Quels sont les récepteurs ? Il peut s'agir de barorécepteurs au niveau du système nerveux central, mais aussi au niveau périphérique, comme des barorécepteurs au niveau de l'oreillette gauche ou des récepteurs d'étirement auriculaire. C'est possible. Comme vous le savez, l'ANF est régulé par des récepteurs au niveau auriculaire. Je réinsiste sur le fait qu'il y a une régulation qui est opposée à celle de la vasopressine. Au passage, la vasopressine est régulée aussi par l'osmorégulation, mais aussi par des barorécepteurs. La régulation osmolaire de la vasopressine est celle qui prédomine. Mais quand on soustrait à un animal à peu près 20%, il faut quand même arriver à 20% de sang, c'est-à-dire par une hémorragie, à ce moment-là, on est en régime isotonique, iso-osmolaire, et la vasopressine s'élève. Donc c'est une régulation volémique, mais qui est tardive par rapport à la régulation osmolaire dans des conditions physiologiques. Donc tous nos résultats sont chez l'homme, en accord avec l'expérimentation animale que je viens de vous rapporter. Donc c'est extrêmement intéressant de construire ainsi une vue cohérente de ce système apélinergique qui, comme la vasopressine, doit jouer un rôle dans l'homéostasie des volumes sanguins chez l'homme, comme chez l'animal, au niveau central et peut-être rénal. Alors, quel est, finalement, je vous ai décrit des relations. Est-ce qu'il y a un rôle physiologique ? Est-ce que l'apéline est plus qu'un marqueur ? Je crois bien sûr que oui. Il faut savoir maintenant quelle est sa contribution à la diurèse. Nous avons vu que l'apéline avait un effet diurétique chez l'animal par elle-même. Certes, elle a un effet diurétique par une action anti-vasopressine, mais il n'est pas exclu qu'il y ait un effet intrarénal, puisqu'il a été décrit la présence de récepteurs de l'apéline dans certains glomérules et le long des vasarecta. Est-ce que l'apéline pourrait avoir un effet diurétique en agissant sur la contractilité cardiaque en cas de volémie élevée? C'est pas exclu. Évidemment, il y a plein d'expériences qu'on pourrait réaliser, en tout cas chez le rat. Par exemple, de savoir, pour vérifier l'importance de ces volorécepteurs, on pourrait réaliser une expansion volémique isotonique chez l'animal et voir à ce moment-là si le taux d'apéline varie. Il devrait augmenter, a priori, et on pourrait étudier l'effet aussi sur les neurones magnocellulaires du rat. De façon pratique, le dosage d'apéline peut être utile dans le plasma. Il est très difficile de mesurer en pratique courante l'hormone antidiurétique dans le plasma chez l'homme. parce que les dosages sont délicats à réaliser, étant donné le très faible taux circulant de vasopressine, il pourrait donc être intéressant de mesurer l'apéline plasmatique pour aider au diagnostic dans les cas de les cas d'hyponatrémie. Quand on est en l'hyponatrémie, la baisse du sodium plasmatique dans le sang, c'est l'anomalie biologique la plus fréquente que l'on observe dans un hôpital. Quand vous regardez un hôpital et vous regardez les anomalies qu'on peut observer, c'est pas l'anémie, c'est pas l'augmentation des globules, c'est l'hyponatrémie. Et l'hyponatrémie, très schématiquement, elle peut être due à une déshydratation avec perte de sel. À ce moment-là, on a une hyponatrémie. Mais elle peut être due aussi à une hémodilution avec excès de rétention d'eau. C'est facile à dire, c'est très difficile quelquefois à diagnostiquer. Or, les traitements sont radicalement différents. Si on a perdu du sel, il faut en donner. Si on a trop d'eau, il faut supprimer l'eau, mais pas rajouter de sel. Vous voyez. Et donc, pour aider au diagnostic biologique, avoir un indicateur comme le taux d'apéline serait utile. Et j'ajoute enfin, pour terminer, que en cas d'insuffisance cardiaque, notamment où l'apéline a été mesurée un peu rapidement, pour pas dire plus, eh bien, il faudrait tenir compte de l'osmolalité pour interpréter correctement le dosage d'apéline plasmatique. En effet, chez l'insuffisance cardiaque, il y a souvent une hyponatrémie par hémodilution, notamment. Et donc, pour pouvoir interpréter les valeurs d'apéline plasmatique, à mon avis, il faut pouvoir avoir une mesure de l'osmolalité qui n'est pas très compliquée. Il suffit quelquefois d'ailleurs de mesurer de multiplier par deux le taux de concentration de sodium plasmatique. Voilà. Alors ça, c'était pour l'effet central de l'apéline. Je voudrais introduire maintenant l'apéline est-elle une adipokine ? Point d'interrogation. Et on va faire un petit tour sur l'obésité, les adipokines. Alors, comme tout le monde le sait, ici en France et dans le monde, nous sommes tous menacés d'obésité. On parle d'épidémie et naturellement, il y a des tas de points d'interrogation sur les mauvais gènes, sur notre culture de fast-food, sur un comportement alimentaire aberrant. Bref. On en entend et on en entend encore, et même les artistes comme Botero voient l'obésité non seulement comme un phénomène peut-être génétique, mais aussi culturel, puisque la famille représentée sur un tableau de Botero est obèse depuis le père, le grand-père et jusqu'au petit chien qui tous se portent entre guillemets trop bien. Ils se portent trop bien parce que chacun d'entre nous est menacé d'obésité, particulièrement de ce qu'on appelle l'obésité viscérale, c'est-à-dire une obésité, pour faire simple, une obésité abdominale, la fameuse brioche, autrefois considérée avec sympathie et synonyme d'homme bien portant, et aujourd'hui accusée de tous les maux, puisque cette obésité viscérale correspond en fait effectivement à un dysfonctionnement du tissu adipeux. Alors, nous travaillons ici, au laboratoire, au passage, sur certains des aspects de l'obésité viscérale. Nous nous sommes intéressés à la production de facteurs angiogéniques, par exemple, dans le tissu gras, dans les adipocytes, qui proviennent soit des adipocytes sous-cutanés, qui ne sont pas représentés ici, soit des adipocytes viscéraux, qui se trouvent parfaitement identifiables avec des scanners, par exemple, et qui peuvent être prélevés dans certaines circonstances, notamment en cours de chirurgie abdominale pour essayer de restreindre la prise de nourriture, ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique, c'est le fameux anneau gastrique, et on peut prélever à ce moment-là des adipocytes. Et on repère à ce moment-là que ces adipocytes ont un métabolisme tout à fait anormal par rapport aux adipocytes de sujets normaux, et par rapport à des adipocytes sous-cutanés, avec une augmentation de leur taille, une augmentation du taux intracellulaire de l'épine, mais il n'y a pas seulement les adipocytes viscéraux, mais aussi on trouve ces adipocytes au niveau du muscle, au niveau de la graisse cardiaque, au niveau de l'épicarde et au niveau du foie. Alors, ces adipocytes et cette obésité viscérale est responsable de ce qu'on appelle maintenant volontiers le syndrome métabolique, qui est caractérisé par une obésité viscérale, caractérisé par une obésité avec une résistance à l'insuline. Les taux d'insuline circulant ne sont pas tellement anormaux, pas tant diminués que finalement, ils sont inefficaces. Il y a donc une résistance périphérique au taux circulant d'insuline. Et puis, le point évidemment crucial, c'est que cette obésité, en dehors des complications mécaniques, d'arthrose, etc., va pouvoir entraîner des complications cardiovasculaires et une athérosclérose. Et ce qui a été découvert, finalement, il n'y a pas tellement longtemps, dans un peu plus d'une dizaine d'années, c'est l'existence de médiateurs locaux et circulants, qu'on appelle les adipokines, qui sont synthétisés, libérés par les adipocytes, qui vont avoir des effets variables et qui établissent un lien, en quelque sorte, entre l'obésité d'un côté et, d'autre part, le syndrome métabolique, l'inflammation et les maladies cardiovasculaires. Il y a donc deux faces, en quelque sorte, au tissu adipeux blanc, qui est le tissu adipeux que l'on observe chez l'homme, à savoir, d'une part, ce tissu adipeux va servir de stockage pour des lipides, pour les acides gras, qui vont être estérifiés, capturés, stockés, et d'autre part, libérés en cas de besoin. Et de la même manière, ce tissu adipeux va pouvoir fabriquer un certain nombre de substances extrêmement utiles, comme par exemple les prostanoïdes, les hormones stéroïdiennes, le rétinol, etc. Puis l'autre face, c'est justement la synthèse et la sécrétion de ces molécules adipokines, qui sont des petites molécules pour la plupart, des chémokines comme les interleukines, l'interleukine 8 ici, des protéines comme cette molécule des macrophages qu'on appelle un monocyte chémoattractant protéine 1, qui, comme son nom l'indique, attire et chémotactique pour les monocytes et les macrophages. Vous voyez immédiatement l'aspect pro-inflammatoire de MCP1. Des molécules qui peuvent intervenir dans la croissance de l'endothélium, comme le VEGF ou neuronal, comme le NGF, neuronal growth factor. Le TNF-alpha est une adipokine extrêmement importante. Elle stigmatise en quelque sorte l'inflammation chronique qu'est l'obésité. Et puis, la leptine, l'adiponectine, la résistine, la vistatine, l'hepcidine, autant d'adipokines découvertes récemment et qui vont avoir une action différenciée. Notamment, je ne vais pas rentrer du tout dans les détails, mais l'apéline se fait son petit bonhomme de chemin dans ces adipokines. Et c'est pour ça qu'il était intéressant de discuter quelques minutes sur les adipokines, pour dire donc que ces adipokines sont produits et sécrétés par les adipocytes. Ces adipokines vont jouer un rôle essentiel dans l'homéostasie énergétique, c'est assez logique, dans la mesure où elles sont fabriquées dans un réservoir d'énergie de l'organisme qu'est le tissu adipeux blanc. Elles vont avoir une action sur à la fois le métabolisme glucidique et lipidique qui sont extrêmement reliés. Mais le point intéressant, c'est que ces adipokines peuvent cheminer loin. Elles peuvent aller jusqu'au niveau du système nerveux central et contrôler l'appétit. Donc vous allez avoir à la fois une action centrale pour le contrôle de l'appétit, et la leptine est la plus belle démonstration qui soit, et d'autre part une action périphérique pour disposer en quelque sorte de ce stock énergétique. Elles vont jouer un rôle dans d'autres fonctions neuroendocriniennes, et la leptine, pour en dire un mot, et ne pas y revenir après, joue un rôle notamment dans la fertilité. Et surtout, le point intéressant, c'est le rôle des leptines dans le domaine cardiovasculaire. 94, première adipokine de taille, si je puis dire, découverte, la leptine, par Jeff Friedman à New York, et depuis, une explosion sur la leptine elle-même et sur les autres adipokines. Donc je vous propose une minute ou trois minutes peut-être quand même de repos pour vous et pour moi aussi, et puis on reprend après.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.